Xavier Laurent Petit, bonjour.
Bonjour.
Vous avez répondu à l'invitation du Collège Benjamin Malaussan, et on peut dire tout ce côté littérature avec la médiathèque et puis aussi ce qui compose les cours de français, justement pour une présentation de vos ouvrages. Vous êtes auteur et vous êtes venu donc faire partager votre expérience et peut-être aussi ce qui vous tient à cœur. Alors avant d'aborder votre personnalité, quand on arrive devant un groupe d'enfants, qu'est-ce que vous tient à cœur finalement de faire partager de prime abord? Qu'est-ce que votre expérience, ou c'est quelque chose?
De plus en plus souvent, je me dis que je viens une espèce d'apôtre de la lecture. Dire que, à côté des jeux vidéo, d'Internet, des jeux en ligne, etc., etc., il y a un petit objet qui ne coûte pas cher et qui ne tombe jamais en panne, qui s'appelle un livre, et qui peut nous emmener très loin. Alors c'est pas l'un contre l'autre, c'est pas le numérique contre l'écrit. Les deux peuvent cohabiter. Et donc moi je tiens à leur faire passer cette idée qu'un livre, pas forcément les miens, mais un livre que l'on lit, peut nous emmener très loin et peut stimuler notre imaginaire de façon totalement imprévue et souvent réjouissante.
Peut-être voire plus que les jeux vidéo finalement, au niveau du stimuli. Alors ça, c'est quelque chose, la littérature jeunesse, qui vous habite depuis un certain nombre d'années. Madame Brun évoquait pratiquement 25 ans de profession au niveau de cet écrit. Est-ce que ça a été toujours la littérature jeunesse que vous êtes focalisé?
J'ai démarré par deux très mauvais romans policiers, qui sont heureusement épuisés. Voilà. Et ensuite, c'est un peu par hasard que j'ai eu l'occasion de publier un premier livre en littérature, enfin, chez un éditeur jeunesse, qui est l'École des loisirs. Et puis, je me suis senti bien dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que j'ai bien aimé cette façon d'écrire pour des plus jeunes. Et puis, en même temps, c'est vrai que j'ai bien reçu par cet éditeur un peu à part qu'est l'École des loisirs. Et du coup, j'ai plus bougé. Je me suis retrouvé chez moi, en fait.
Chez vous, parce que ça correspond à votre état d'esprit, savoir une certaine forme, finalement, d'élaborer une histoire?
Oui, c'est-à-dire, je crois qu'il y a un rythme du récit pour la jeunesse, il y a une façon de l'envisager par les yeux. Bon, moi, je m'adresse à des adolescents, une façon de l'envisager par les yeux d'un adolescent. Il y a une façon de supprimer tout ce qui peut être, entre guillemets, inutile, pas trop de descriptions de personnages, enfin, laisser une vraie liberté au lecteur pour imaginer les situations. Voilà, moi, mon boulot, quand je m'adresse à eux, c'est d'essayer de mettre en route leur petit cinéma intérieur. Si ça marche, j'ai, je pense, à peu près réussi mon coup.
Alors justement, ce cinéma qui invite à un grand voyage, à beaucoup de voyages, à travers tous vos ouvrages, est-ce qu'il y a des thématiques privilégiées que vous abordez ou vous aimez finalement ne pas vous fixer de frontières dans votre champ d'investigation?
Alors je ne me fixe pas trop de frontières. Je pense que ce qui est important, c'est que ce dont je parle au démarrage me touche, me révolte, m'émeuve. Voilà, faut que je me sente concerné par ce que je suis en train d'écrire. Donc c'est vrai que je m'aperçois, par exemple, que les derniers récits que j'ai pu écrire sont très axés autour des histoires de... Si je dis écologie, c'est très à la mode et j'ai pas envie d'être à la mode, mais de protection de la nature, mais également protection de civilisations qui tendent à disparaître en Amazonie ou ailleurs. Enfin voilà, pour l'instant, je suis très attiré par ces thématiques. La disparition des langues, par exemple, c'est quelque chose, j'aimerais beaucoup écrire un bouquin là-dessus. Il y a quoi sur Terre, je ne sais pas combien exactement il y a de langues, personne n'est d'accord. Ce qui est à peu près certain, c'est qu'il y a en gros une langue qui disparaît tous les 15 jours. Donc ça, c'est une façon d'envisager le monde qui n'existera plus. Bon, et voilà, donc je suis en train de réfléchir à une histoire qui je ne sais pas encore à quoi elle ressemblera, mais voilà, qui parlerait de ça. Voilà, c'est une partie de ce monde qui disparaît, et ça m'intéresse, et ça m'intrigue, et ça m'inquiète. Voilà.
Le monde, finalement, qui s'étiole, et c'est une forme pour vous de fiction ou plus de réalité dans la manière dont vous souhaitez finalement aborder ces thèmes?
Je crois que c'est vraiment un entremêlement de fiction et de réalité. C'est-à-dire je pars très très souvent de faits réels que je mêle et que je tisse entre eux avec une bonne part d'imaginaire aussi. Donc à l'arrivée, on est dans cette espèce d'entre-deux mondes qui est ni de la science-fiction, mais ni de la fiction, ni du pur imaginaire, mais qui n'est plus non plus du, de la pure réalité. Ce n'est pas un boulot de journaliste, même si par moments, ça s'en rapproche pas mal.
D'accord, oui, il y a quand même un esprit un peu documenté aussi qui est une ligne conductrice finalement dans vos livres.
Oui, alors la documentation, c'est la base de tout ce que je fais. C'est-à-dire, je peux passer des, en plus, j'adore faire ça. Donc, je peux passer des heures à me documenter dans des bouquins, dans des journaux, sur Internet. Et c'est vraiment l'espèce de, comment dire, le terreau finalement sur lequel je fais pousser mes histoires et mes romans. Je serais incapable de partir dans des mondes totalement fictionnels comme ce qu'on trouve en heroic fantasy. Voilà, c'est pas du tout mon univers.
Alors là, vous êtes en tournée sur la Drôme, mais c'est pas tellement votre département originel. Vous sillonnez un peu dans l'Hexagone généralement.
Oui, alors moi j'habite pas du tout ici, mais j'essaie de réserver chaque année environ une dizaine de journées pour aller parler de livres en fait, là où on a l'amabilité de m'inviter. Donc ça, voilà, là il se trouve que c'est dans la Drôme, mais ça m'arrive d'aller, je sais pas, mes petits bouquins m'ont emmené aussi au Canada, à Mayotte, aussi bien qu'en région parisienne. Bon voilà, ça dépend des propositions qu'on me fait en fait.
Après, ce que vous aimez mettre en qui émergent certains ouvrages plus que d'autres par rapport au lieu, des fois, où vous déplacez. Vous souhaitez peut-être des fois orienter plus... non, ou ça composer, enfin, vous proposez un petit panorama de...
En fait, quand je suis invité, bon, comme c'est le cas ici, par des enseignants, je trouve que la moindre des choses, c'est de m'adapter à ce qui a été préparé par les enseignants et par leur classe. Donc... voilà, j'essaye de me couler dans le moule de ce qui a été fait en amont de ma venue.
Il y a eu un échange un peu, puisque les élèves ont préparé aussi en amont un peu votre venue. Il y a eu des temps d'échange, de questions un petit peu structurées.
Oui, alors il y a des temps d'échange alors qui sont plus ou moins faciles selon les âges. C'est-à-dire c'est vrai que des classes de 4e, 3e, bon, c'est un âge où les jeunes sont plus sur la retenue. Et ils craignent beaucoup le regard que les autres vont poser sur eux. Donc voilà, il y a une espèce de phase d'apprivoisement qui peut être plus ou moins longue selon les classes. Voilà, alors ça c'est un peu la loterie en fait. On ne sait jamais très très bien sur qui on va tomber. Les 99,9 fois sur 100, ça se passe parfaitement bien.
Alors là, on peut toucher à moi aussi de votre dernier ouvrage, hein, c'est Itawapa, c'est bien cela.
Itawapa.
Qui est sorti donc à l'école des loisirs, que vous présentez aussi à cette occasion. On peut dire un roman d'aventure, de quoi s'agit-il ?
Alors, est-ce que c'est un... Oui, c'est forcément un roman d'aventure. Bon, le point de départ, c'est un article parfaitement... absolument pas imaginaire, que j'ai trouvé dans le courrier international concernant un petit groupe d'Indiens, des Indiens non contactés, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été en contact avec des gens vivant selon le mode européen, on va dire, le mode occidental. Donc petit groupe d'Indiens qui vivraient encore dans une réserve tout à fait au nord-ouest du Brésil. Et en fait les ethnologues en étudiant d'à peu près les traces que ces gens-là avaient laissées, puisque c'est des gens qu'on n'a jamais vus en fait, on ne les connaît que par les traces qu'ils laissent de leur passage, se sont aperçus que ce petit groupe se réduisait à une personne, le dernier Indien de ce groupe. Ce qui est assez fascinant, enfin, on imagine la vie, ce que peut être la vie de cet homme dans un milieu aussi hostile que l'Amazonie. Et puis là aussi, je reviens à cette histoire de langue, c'est-à-dire que l'Amazonie est une des zones du monde dans laquelle il y a le plus de langues parlées. Et cet homme est quasi certainement, j'en parle au présent parce que c'est très possible qu'il soit toujours vivant au moment où on parle, cet homme est certainement le dernier à parler sa langue, qu'il ne peut parler avec personne puisqu'il est seul. Voilà, et donc voilà, ça a été le point de départ de ce bouquin où j'ai essayé d'imaginer pourquoi est-ce qu'il se retrouvait seul, qu'est-ce qui s'était passé. Il y a une espèce de quête de cet homme-là tout au long du livre.
Alors ça stimule l'imagination des enfants qui après ont un goût supplémentaire pour la lecture. Ça, c'est aussi, vous êtes un peu un levier, vous sentez que ça commence à faire briller un peu les yeux.
Alors, ça faut plus demander aux enseignants et aux documentalistes et aux bibliothécaires après coup. Oui, j'aimerais bien être un levier. Alors, de temps en temps, j'entends dire que il y a tel élève, parfois ce sont eux qui le disent d'ailleurs directement, c'est le premier livre que j'ai lu jusqu'au bout. Donc, alors là, je sais que j'ai réussi mon coup. Maintenant, il y a aussi des gens pour qui la lecture est plutôt un fléau, j'allais dire qu'autre chose, un poids, si ce n'est un fléau. C'est comme ça. Hein. Là, je pas, tout n'est pas possible. Voilà. J'aimerais bien que tout le monde finisse par lire, mais on se heurte parfois à des obstacles, à des gens pour qui simplement, je pense aussi que leur système imaginaire fonctionne pas à partir du livre, fonctionnera peut-être plus à partir d'images ou de choses comme ça.
On n'est pas tous égaux devant l'imagination.
Ou devant ce type d'imagination bien particulier que proposent les romans, c'est-à-dire des mots. Et sur ces mots, faut arriver à mettre en route les images et à mettre en route un petit cinéma intérieur. Et c'est pas évident pour tout le monde.
Bien, Xavier Laurent Petit, merci beaucoup.
Merci.